Vous arrive-t-il de douter? Qui ne doute jamais? Je suis très déçu de ne voir aucune main se lever, parce que si ça avait été le cas, je me serais précipité à la fin de ce temps de culte pour poser des questions et dire comment vous faites. Nous doutons, je doute régulièrement. Des fois concernant un fait qui s'est produit. S'est-il bien produit quand on en entend parler? Parfois concernant une parole entendue, est-elle vraie? Ou alors, concernant une circonstance de nos vies, je doute concernant la bonne décision à prendre. Et en tant que croyants, nous ne sommes pas non plus épargnés par le doute, particulièrement lorsque dans nos vies, nous faisons face à l'adversité, aux épreuves. Quand on se sent opprimé par les événements, par des choses que nous vivons. On peut penser à toutes sortes de choses, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être la perte d'un être cher et proche. Ça peut être une difficulté financière. Mais en tant que chrétien, on est parfois aussi opprimé. Il peut y avoir des épreuves quand justement nous partageons notre foi et qu'il y a des fois cette indifférence, des fois ces moqueries, l'humiliation, la remise en question de notre foi par ceux qui entendent notre témoignage. Et dans ces moments-là, le doute nous envahit et parfois on vient à se poser des questions sur « mais qu'en est-il des promesses de Dieu ?» Et puis le temps passe, les circonstances ne sont pas faciles autour de nous. Qu'en est-il de sa promesse de retour? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore revenu? Comment est-ce que je peux être sûr que si je viens à mourir, je serai auprès de Dieu? Et puis ce doute est parfois accentué encore plus quand je regarde à l'état de mon propre cœur, à mes tendances, mes paroles, mes pensées, mes actions. Et je me pose des fois cette question et je me dis au fond de moi, mais est-ce que Dieu n'en a pas assez de mes échecs à lui obéir? De mes chutes à répétition face à la tentation? De mes inconstances récurrentes? Est-ce qu'un jour il ne va pas se lasser de moi vraiment, m'abandonner sur le bord du chemin? Comment est-ce que je peux être sûr de mon salut? Alors, on a été conduit dans la lettre aux Hébreux la dernière fois sur un passage où on a vu que l'auteur faisait des reproches, en tout cas était inquiet concernant l'immaturité spirituelle de ses destinataires. Et puis il les met aussi en garde à un moment donné contre le danger qu'il y aurait à abandonner Dieu après avoir été éclairé sur la vérité de l'Évangile. Mais il termine son passage en disant qu'il est convaincu que ce ne sera pas la situation de ses lecteurs qui, par la grâce de Dieu, persévéreront jusqu'au bout dans la foi. Et ce matin, on va voir donc la suite de ce passage et on va voir que ce passage constitue un puissant encouragement à persévérer patiemment dans la foi parce que Dieu s'est engagé par serment à deux reprises. Il a promis par serment un peuple et il a promis par serment un grand prêtre, un médiateur, un intermédiaire pour ce peuple, pour sa relation entre ce peuple et lui. Et je vous invite à lire ce matin, alors le passage est long, on ne va pas tout lire, je vais en lire certaines parties et puis en commenter d'autres, mais je vous invite dans un premier temps à lire pour cette première partie, Hébreux chapitre 6, les versets 13 à 20. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même. car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara, « Assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur. Car il est devenu grand prêtre pour l'éternité, selon la ligne de Melchisédek. Dans ce passage, l'auteur mentionne Abraham pour mettre en évidence un exemple, bien sûr, de foi et de patience. Abraham a reçu une promesse et il a dû patienter dans la foi, dans cette promesse. Mais ce que l'auteur veut surtout nous montrer au travers de ce passage, et ce qu'il veut mettre en valeur, c'est la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu tient toujours, toujours, toujours ses promesses, même si ça prend du temps. Il est question dans ce passage qu'on vient de lire que de deux actes irrévocables de Dieu qui constituent un puissant encouragement pour nous. Verset 18. De quoi est-ce que l'auteur parle ? En fait, l'auteur remonte à la Genèse et à deux promesses que Dieu a faites à Abraham. Tout d'abord une promesse et ensuite un serment. Le premier acte, c'est donc cette promesse de Dieu à Abraham qu'on trouve dans Genèse 12, dans Genèse 15 et à nouveau répété dans Genèse 17, où Dieu a promis de bénir Abraham et que cette bénédiction se manifesterait au travers d'une descendance et qu'au travers de cette descendance, toutes les familles de la terre seraient bénies. Il va y avoir un peuple nombreux qui appartiennent à Dieu. Dieu s'est engagé par promesse auprès d'Abraham de se constituer un peuple d'hommes et de femmes de toutes les nationalités de la terre. Un peuple qui lui appartienne. Et alors que Abraham est d'un âge avancé quand il reçoit cette promesse, le temps passe et Abraham n'a toujours pas d'enfant. Sa femme, Sarai, est stérile et il va falloir 25 ans à Abraham d'attente patiente dans cette foi à la promesse de Dieu avant la naissance d'Isaac. Et Dieu va par la suite tester la confiance d'Abraham en lui demandant d'offrir ce fils unique en sacrifice. Et bien sûr, dans la suite de l'histoire, Abraham va obéir, faire confiance, et avant qu'il porte le couteau sur son fils, Dieu va l'arrêter. Et c'est à cette occasion, ce moment éprouvant dans sa vie où il est sur le point d'offrir son fils pour Dieu, que Dieu le stoppe et Dieu prête serment. Et on voit cet épisode dans Genèse chapitre 22, les versets 16 et 17. Dieu a promis, Dieu maintenant réitère cette promesse par un serment, il jure maintenant par lui-même qu'il va tenir sa promesse. En fait, l'objectif de Dieu ici, il est d'affermir Abraham dans sa confiance, et de souligner tout le poids, toute la valeur de l'engagement de Dieu. J'ai promis, je te jure que tout ceci va s'accomplir. Vous savez, si un ami vient vous dire « J'ai vu l'autre fois que tu t'es fait flasher sur la route. » Et dites « Non, c'est pas vrai. » Il dit « Si, si, je te promets, j'ai vu le flash. » Alors bien sûr, la confiance, c'est un ami, elle est sûrement là et vous allez très certainement le croire. Mais peut-être qu'au fond de vous, quelque part, il y a un petit brin de doute de se dire « Ouais, mais quand même, et si c'était pas moi qui avais été flashé, si c'était une autre voiture, quelqu'un qui me doublait ou quoi que ce soit ?» Mais si maintenant cet ami vient vous voir un jour et qu'il récupère votre courrier et qu'il rentre chez vous en disant « Tiens, j'ai récupéré ton courrier et je te jure que tu t'es fait flasher sur la base de cette lettre que je viens de voir » et vous prenez cette lettre dans votre main, et là, aucun doute. Il y a le petit drapeau français. C'est écrit « République française », lettre venant du gouvernement, avec la mention de l'infraction et de l'amende. Une lettre assermentée, en quelque sorte, qui valide qu'il n'y a plus aucun doute possible. Il va y avoir cette amende à payer. Quand une personne veut donner du poids à un engagement, à une promesse, souvent, elle jure par plus grand qu'elle. On entend des fois des gens jurer par leurs ancêtres, sur leurs parents, sur la Bible ou d'autres choses comme ça. Mais parce que Dieu est Dieu et qu'il n'y a pas plus grand que Dieu, Dieu a prêté serment par lui-même, avec tout le poids de qui il est, dans tout ce qu'il est, dans toute sa perfection, dans toute sa gloire. Et si, nous dit l'auteur, le serment d'un être humain est une garantie qui met fin à toute contestation, à combien plus forte la promesse de Dieu accompagnée de son serment. Devrait être garantie. Elle nous est garantie. Alors on peut se poser la question et se dire, mais est-ce que la promesse n'aurait pas été suffisante de la part de Dieu ? Et c'est là toutes les limites de mon illustration, parce qu'en tant qu'humain, on peut parfois avoir ce doute. Oui, la promesse de Dieu aurait été suffisante, parce que l'auteur nous le dit, on le voit aussi dans Tite, chapitre 1, verset 2, Dieu ne ment pas, il est impossible que Dieu mente. Mais Dieu tenait à ce qu'Abraham, que nous soyons doublement rassurés. Deux actes irrévocables qui ne devraient laisser aucun doute quant à leur réalisation. Cette promesse assermentée de Dieu devait constituer un puissant encouragement, non seulement pour Abraham, mais pour ses héritiers, pour les Hébreux du premier siècle qui ont reçu cette lettre, qui plaçaient leur confiance en Christ plutôt que dans les sacrifices lévitiques. Mais cette promesse est aussi pour nous, aujourd'hui, pour tous ceux qui ont trouvé refuge, nous dit l'auteur, qui ont trouvé protection, et on l'a chanté ce matin avec ce chant « Mon secours est en toi », qui ont trouvé protection en Jésus-Christ et qui ont donc abandonné tout espoir de trouver d'autres solutions de salut. Et cette image du refuge qu'on a chanté ce matin est une image de sécurité que l'auteur veut dire à ses destinataires. Si vous avez placé votre confiance dans les promesses que Dieu a faites à Abraham, vous avez trouvé refuge. C'est votre espérance. Et cette espérance est sûre, quels que soient les vents adverses qui soufflent dans votre vie, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit la moquerie par rapport à votre foi, quoi que ce soit que vous puissiez vivre et expérimenter comme tempête. Cette espérance dans les promesses de Dieu est un refuge pour chacun. Cette tempête qui s'abat sur nos vies, oui, est parfois bien virulente. Oui, la situation de notre monde est complètement déroutante. Oui, nous attendons encore le retour du Seigneur Jésus. Soyons encouragés à persévérer patiemment dans la foi en Dieu et en ses promesses. Elles sont garanties. Et c'est ça la foi chrétienne. Ce n'est pas la confiance en ce que nous, on peut accomplir pour Dieu, mais c'est la confiance dans ce que Dieu s'est engagé et a tout accompli pour nous. La deuxième image de sécurité que l'auteur veut donner à ses destinataires, c'est celle de l'ancre. Et il dit « Cette espérance est aussi certaine, sûre et solide qu'une ancre. » On a chanté « Mon ancre et ma voile » ce matin, on a eu cette illustration du bateau. Et voilà cette deuxième image. Où se trouve cette ancre? Est-ce qu'elle est au fond de la mer? En temps normal, oui, pour un bateau. Mais là, l'auteur nous dit « Non, cette ancre, elle est derrière le voile, dans le lieu très saint où se trouvait la présence de Dieu dans le tabernacle et dans le temple. » Notre espérance dans les promesses de Dieu est ancrée dans la présence de Dieu lui-même. Qui nous a donné cet accès à la présence de Dieu? L'auteur termine, verset 20, « Jésus, notre grand prêtre pour toujours. » Voilà celui qui est notre ancre. Et sa position auprès de Dieu est pour nous une assurance que notre avenir se trouve aussi auprès de Dieu. En fait, elle est déjà auprès de Dieu, en la personne de Christ, puisqu'il est dit que Christ est rentré en tant que précurseur. Ce qui signifie que parce que Christ est remonté au ciel dans cette présence de Dieu, il va entraîner avec lui toutes celles et ceux qui se sont réfugiés en Jésus-Christ. Cette assurance est certaine. Dieu n'a pas seulement promis par serment de se constituer un peuple qui lui appartienne, de toutes les nations. Mais il a aussi promis, et c'est là le deuxième encouragement, il a aussi promis par serment celui qui mettrait son peuple en relation avec lui et de manière sécure. On se rappelle que les destinataires de cette lettre étaient incités à retourner aux pratiques de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et l'auteur veut donc les convaincre, continuer de le convaincre, il le fait tout au long de cette lettre, et il veut continuer de les convaincre de la supériorité de Christ à tout le système de l'Ancienne Alliance. Et ici, il va le faire dans le passage qui suit, en parlant de la supériorité de Christ aux prêtres de l'Ancienne Alliance. Et il va le faire au travers du lien qui existe entre Christ et ce personnage un petit peu mystérieux qui est Melchisédek. Un personnage qui apparaît dans 4 versets de Genèse, de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 14, quand Abraham a remporté une victoire militaire, qu'il revient, il rencontre Melchisédek, ce roi prêtre à qui il va verser une partie de son butin de guerre, une partie de ce qu'il a remporté. Et ce Melchisédek va bénir Abraham. Et puis, on réentend parler de Melchisédek au psaume 110. Et à partir de ces deux passages, l'auteur va mettre en lumière la supériorité de Christ. En tout cas, c'est ce qu'il va démontrer. Cet homme, Melchisédek, dont préfigurait Christ. Ce qui signifie que, en regardant à cet homme, il n'était pas Christ, mais en regardant à cet homme, il devait nous faire penser à Christ. Comme quand on regarde une ombre ou une silhouette projetée de quelqu'un, on pourrait deviner qui c'est, mais cette silhouette, cette ombre n'est pas la personne qu'elle représente. Et c'est un petit peu cela, ce personnage de Melchisédek. En regardant à qui est Melchisédek, on doit y voir une ressemblance à Jésus-Christ. Alors justement, on ne va pas lire tous les versets, les 19 premiers versets. J'ai fait le choix plutôt d'essayer de vous expliquer. Ce n'est pas un passage facile. Et je vous encourage en rentrant tout à l'heure de lire ces 19 versets en repensant à ce qu'on a dit et de regarder. Mais voici la démonstration de ce que cet auteur de cette lettre aux Hébreux veut faire. Dans les versets 1 à 3, il met en lumière justement la ressemblance entre Melchisédek, ce roi-prêtre de l'Ancien Testament, et Christ. Et il met en lumière donc le nom Melchisédek, ça veut dire quoi ? Ça veut dire roi de justice. Qui est Jésus-Christ ? Il est notre roi, le véritable roi de justice. Qui était cet homme ? Il était roi de Salem. On pense que c'était peut-être à ce moment-là, à cette époque-là, Jérusalem. Mais en tout cas, toujours est-il que roi de Salem, ça signifie roi de Shalom, ça veut dire roi de paix. Qui est Jésus-Christ ? Notre roi de paix. Ensuite, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas, dans les passages qui nous parlent de Melchisédek, de généalogie. On n'a aucune info sur sa naissance, on n'a aucune info sur sa mort, on n'a aucune info sur qui sont ses parents, nous dit l'auteur. Et cela, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas né un jour et qu'il n'est pas mort un jour. Absolument pas. Mais ce silence est fait exprès pour nous amener cet élément de ressemblance à Christ qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin et qui est encore vivant aujourd'hui. Donc voilà cette ressemblance dans les versets 1 à 3 entre Melchisédek et Christ. Dans les versets 4 à 10, il va commencer et chercher à montrer que ce Melchisédek, il est supérieur au prêtre lévitique. Parce que s'il arrive à démontrer ce fait, eh bien, comme Christ est ressemblant et celui qui est préfiguré par Melchisédek, eh bien forcément Christ est supérieur au prêtre lévitique. Alors il va donner trois arguments pour faire cette démonstration. Le premier, alors accrochez-vous pendant ces quelques secondes, minutes, j'ai essayé de simplifier avec des schémas et tout ça pour aider. Si ce n'est pas clair, on peut en discuter à la fin, je prendrai volontiers du temps pour ça. Mais en tout cas, voilà le premier argument. Les prêtres lévitiques prélevaient dans l'Ancien Testament la dîme sur le peuple d'Israël, qui était prêtre lévitique, comme le peuple d'Israël, des descendants d'Abraham. Abraham était donc le père du peuple d'Israël, de ses descendants, qui étaient donc ses enfants, arrière-petits-enfants. Okay ? Donc Abraham, en tant que père des descendants d'Israël, est supérieur à ses descendants. Et donc, quand Abraham, dans Genèse 14, a versé sa dîme, une part de son revenu à Melchisédek, eh bien, ça veut dire que Abraham est inférieur à Melchisédek. Melchisédek est donc supérieur à Abraham. Et si Melchisédek est supérieur à Abraham, il est forcément supérieur au prêtre lévitique. Premier argument. Deuxième argument, Melchisédek a béni Abraham. L'auteur nous dit, celui qui reçoit la bénédiction est inférieur à celui qui la donne. Donc, Melchisédek est supérieur à Abraham et donc à ses descendants, les Lévites. Troisième argument, l'auteur rappelle que les prêtres lévites étaient des hommes mortels, alors que Melchisédek, et on se rappelle, hein, par les silences que la parole donne, vit, nous dit l'auteur. Il vit dans le sens où sa prêtrise est permanente, d'une part parce qu'elle va être rappelée dans le psaume 110, et d'autre part parce que justement il y a ce silence qui ne nous parle, la Bible ne nous parle pas de la mort de ce Melchisédek. Donc, les prêtres lévites sont des hommes mortels, alors que Melchisédek vit dans ce sens où sa prêtrise est permanente, puisqu'en plus, David, dans le psaume 110, va nous le rappeler. Et ensuite, on arrive dans les versets 11 à 19, où l'argument principal va être celui-là, maintenant qu'il a démontré la supériorité de Melchisédek sur les prêtres lévitiques. Il va dire que puisque Christ est un prêtre selon l'ordre de Melchisédek, eh bien Christ met définitivement un terme aux pratiques lévitiques et donc à toute la loi cérémoniale, à tous les sacrifices qui ne permettaient pas de rétablir durablement et parfaitement la relation brisée par le péché entre Dieu et son peuple. Ce système était provisoire, temporaire, et la venue de Christ inaugure donc une nouvelle alliance. Et pour finir toute cette démonstration, et c'est sur ça que je voulais mettre l'accent ce matin, parce qu'il me semble que le texte met cela en avant, on va lire la fin de ce passage, Hébreux chapitre 7, et on va prendre les versets 20 à 28. En outre, tout cela ne s'est pas fait sans serment de Dieu. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise sans un tel serment. Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il lui a dit, et là il cite le psaume 110, « Le Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours. » Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. De plus, de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêchait d'exercer leurs fonctions à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé au plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse, mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel, prononcé après la promulgation de la loi, est son propre fils, et il a été rendu parfait pour toujours. Fin de la démonstration de notre auteur, que je vous laisse résumer et observer quelques secondes sur cette slide. Les prêtres lévites étaient nommés à cause de leur lien biologique avec Aaron, selon ce que Dieu avait institué dans sa loi. Mais Christ a été nommé par serment, un serment qui vient directement de Dieu, et où l'auteur nous dit « Dieu ne se rétractera pas ». La prêtrise de Christ n'est donc pas transmissible, elle est définitive. Christ est pour toujours et à jamais notre seul et unique intermédiaire avec Dieu. Il est le grand prêtre parfait. Ce qui veut dire que nous n'avons besoin de rien d'autre, ni de personne d'autre que Christ pour être sauvés et pour être dans cette relation avec Dieu. Non seulement Dieu a juré qu'il se constituerait un peuple qui lui appartienne, mais il a aussi nommé par serment celui qui offrirait à ce peuple cette relation intime, cette relation profonde, éternelle, donc définitive, avec Dieu, Jésus-Christ. Voilà le puissant encouragement pour nous ce matin. J'aimerais qu'on regarde encore ces versets 24-25 par lesquels on va terminer. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus est en mesure de sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, nous dit l'auteur. Parce que Jésus est toujours vivant et parce qu'il intercède pour nous. En fait, Jésus est auprès de son Père et il défend continuellement notre cause auprès du Père. Il est notre allié, il est notre avocat, il est notre défenseur permanent. Ses requêtes ne peuvent pas être refusées parce qu'il est ressuscité et que son sacrifice était valable. Alors ce matin, j'aimerais encore nous poser cette question. C'était aussi un petit peu le mot d'introduction dans ce culte par Brigitte. Sommes-nous découragés ? Peut-être que ce matin, et après cette semaine, ou ces dernières semaines, ou ces mois qui se sont écoulés, vous êtes fatigués, peut-être découragés au plus profond de vous, parce qu'il y a dans votre vie une addiction qui persiste. Addiction à tout ce qui peut être une addiction et que vous avez identifié et avec lesquelles vous luttez. Peut-être que vous êtes découragé parce que vous avez une impatience chronique. Peut-être que vous mesurez encore et encore vos limites en tant que parent et que cela, parfois, souvent, vous exaspère. Peut-être que vous êtes encore pris par la convoitise. Vous faites encore si souvent face à votre égocentrisme récurrent. Votre orgueil est encore trop présent. Vous êtes encore si souvent et vous luttez avec ces pensées peu glorieuses qui vous assaillent. Par une attitude que vous avez eue encore cette semaine, peut-être au travail, qui n'était pas très glorieuse. Par ces paroles blessantes, une fois de plus, qui se sont échappées précipitamment de votre bouche. Chacun peut compléter cette liste par quelque chose qui lui pèse. Nous avons un grand prêtre. Jésus est vivant et se tient actuellement à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il intercède pour moi, pour vous. Jésus présente continuellement les traces des clous dans ses mains en disant « Au Père, j'ai déjà payé pour toutes ces choses. J'ai déjà payé pour toutes ces choses. » L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Rome, aux Romains, au chapitre 8, versets 33-34, nous dit « Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Voilà le profond encouragement que je veux nous laisser ce matin au travers de ce passage. Un encouragement à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Ne baissez pas les bras. Ne partez pas ailleurs. Dieu a prononcé deux serments irrévocables sur lesquels il ne reviendra jamais. Il a promis de se constituer un peuple qui lui appartienne. Et il a promis un prêtre, un médiateur parfait, unique, perpétuel, pour mettre ce peuple en relation avec lui. Et ce prêtre, c'est Jésus-Christ. Toutes celles et ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ trouvent en lui un refuge, un secours et une ancre solide. Leur salut est garanti. Leur entrée un jour dans la présence même de Dieu est assurée parce que Jésus-Christ, notre médiateur, nous y précède. Je vais prier. Seigneur, merci pour cet encouragement puissant que tu nous donnes ce matin, alors que peut-être nous doutons encore parfois en regardant les circonstances dans ce monde, les circonstances de nos vies, et puis tout simplement parfois encore notre propre cœur. Nous sommes dans cette période du déjà et du pas encore, entre la croix et la gloire. Et Seigneur, alors que peut-être nous sommes découragés ce matin par l'une ou l'autre des choses que nous avons évoquées, Seigneur, que ta parole, ces promesses toi qui es ce Dieu qui est juste, qui ne ment jamais, puisse nous encourager profondément sur le chemin de nos vies. Qu'on puisse se saisir à nouveau ce matin de ces promesses, des promesses de ta parole, et trouver dans ces promesses une espérance sûre, certaine, aussi solide que ce refuge au milieu de la montagne, sous des tempêtes, sous l'ouragan, aussi sûre et certaine que cette ancre au fond de la mer qui permet au navire de rester en place, de ne pas dériver. Et comme cette ancre, nous dit cet auteur, qui est plantée auprès de toi, dans ta présence, parce que Christ y est, et parce qu'il va nous amener là de manière sûre et certaine. Quoi qu'il nous advienne sur cette terre, et même si la mort vient à frapper, nous avons cette assurance, si nous avons placé notre foi en toi, Seigneur, de nous trouver pour l'éternité auprès de toi. Alors merci pour ces promesses immenses, que cela nous remplisse de joie malgré l'épreuve, malgré les difficultés, qu'on puisse célébrer cela dans nos vies chaque jour, Seigneur, dans tout ce qu'on vit, qu'on puisse trouver, nous rappeler ces promesses comme une source profonde de joie, d'assurance, de sécurité, et qu'on puisse vivre pleinement cette vie que tu nous donnes et être comme cela a été nous a été dit ce matin et encore rappelé dans cette introduction, être tes témoins qui brillent pour toi. Au nom de Jésus. Amen.